On va accueillir maintenant un médecin que vous connaissez peut-être si vous êtes des leftos, docteur Vincent Valenduc. Le voilà qui arrive du fond de la salle. Vous êtes médecin généraliste, mais vous êtes aussi chroniqueur à Télématin. Mais ici, vous êtes là aujourd'hui. Je vous demande de venir vous installer à mes côtés. Vous êtes surtout là parce que vous avez été un aidant, l'aidant de vos parents. On va faire un petit essai. Est-ce que ça marche ?
Oui, non, oui, très bien.
C'est parfait, c'est parfait. Vous êtes ici pour nous raconter l'histoire que vous avez, votre parcours d'aidant. Vous étiez très jeune quand ça a commencé, 24 ans, je crois.
Exactement.
Et c'était pour votre mère.
Oui, j'ai été l'aidant de ma mère pour laquelle elle a eu une maladie d'Alzheimer précoce qui a commencé à 50 ans. Et j'ai été aidant avec mon frère et mon père pendant 14 années, parce que ça s'est terminé l'année dernière à l'âge de 64 ans. Alors vous êtes pour beaucoup ici, beaucoup d'aidants, vous savez tous ce que c'est, hein, la galère d'être aidant. Hein, parce que c'est déjà, je pense que la première difficulté lorsqu'on est aidant, c'est de savoir qu'on est aidant. Vraiment, j'ai appris ça, j'ai appris que j'étais aidant il y a quelques années en regardant la télévision, en regardant un témoignage d'une journaliste qui a dit qu'elle lâchait le mot aidant, et ça m'a fait un bien fou de savoir que j'avais un rôle en réalité, que j'avais une étiquette sur laquelle j'avais une fonction, c'est-à-dire que moi je ne savais pas, pour moi tout ça était très naturel et très normal d'aider et de me sacrifier pour faire tout ce que je faisais. Mais en réalité, voilà, je pense que la première difficulté, c'est de s'identifier comme aidant.
Alors, un aidant un petit peu particulier, parce que vous avez 24 ans, vous avez décidé de sortir des habitudes familiales et de vous lancer dans la médecine, ce qui n'était pas du tout le domaine de vos parents et de vos proches. Ils vivent au Havre, vous partez faire vos études à Paris ?
À Rouen.
À Rouen d'abord, et puis à Paris ensuite.
Effectivement, ce n'était pas écrit. Hein. Je suis issu d'une famille d'ouvriers. Papa était docker sur le port du Havre. Maman nous a élevés, mon frère et moi. Et effectivement, moi, j'ai suivi la lignée de mon père en tant que docker. La nuit, j'attachais les conteneurs sur les bateaux. Je déchargeais les cales de bateaux de charbon et de sacs de sucre. Et puis, à l'âge de 24 ans, je me suis dit que j'allais reprendre des études de médecine. Bon, c'est vrai que c'était pour une dizaine d'années, ça pique un peu. Hein, mais...
Alors là, on voit bien, à la fois, vous êtes plongé dans la maladie à la maison au Havre. Donc, dès que vous rentrez les week-ends, votre père est là toute la semaine, votre frère, c'est une famille très unie. On sent bien que vous avez cette mobilisation familiale autour de votre mère. Et puis, dans la semaine, vous faites des études de médecine. Ce qui vous a sans doute fait porter un regard un peu particulier sur la maladie de votre mère, ou est-ce qu'à l'époque, vous ne le vivez pas du tout comme ça ?
En réalité, quand on commence des études de médecine, déjà, on est un petit peu hypochondriaque, on a toutes les maladies de la Terre. Quand on apprend un nouveau cours, on a un suivant cardiaque et le lendemain, on est capable de faire un AVC. C'est un peu compliqué de faire les études. Et effectivement, là, j'avais à peine 26-27 ans quand j'ai commencé le cursus de neuro, de toutes les maladies neurologiques. Et il y avait des choses qui commençaient à... Voilà, des éléments qui commençaient à me dire qu'il se passe quelque chose de pas normal à la maison. Et au fait, en réalité, oui, au début, elle a commencé à avoir des troubles de la mémoire qui ont commencé à apparaître. Et je me disais, c'est peut-être de la ménopause, ou je pense que comme tout le monde, j'ai parlé de carence, j'ai parlé de toutes ces choses que les patients viennent me voir au cabinet et ils sont les premiers à me dire, il doit manquer quelque chose, docteur. Et en réalité, en fait, j'essaie de me rassurer avec beaucoup de choses qui n'existaient pas en réalité. Et puis au fur et à mesure, j'ai pris conscience qu'il se passait quelque chose. Donc on est allé voir le généraliste et puis après le neurologue. Là, je vous la fais en version courte, mais ça n'a pas été si simple que ça, vu que ça a commencé à 50 ans. Il y a 14 ans, c'était pas si simple de se dire que ça pouvait toucher aussi les jeunes patients d'avoir une maladie d'Alzheimer précoce.
Vous vous sentez qu'il y a des choses qui ont beaucoup bougé en 14 ans ?
Oui, énormément de choses ont changé. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, on y pense plus facilement. En revanche, la chose sur laquelle il faudrait un peu plus travailler, pour moi, c'est l'aidance qui pour moi, est encore figée. C'est-à-dire que si... moi, j'avais beau être médecin généraliste, il y a beaucoup de choses que j'ignorais dans l'aidance. Et aujourd'hui, je trouve que ça commence un petit peu à sortir du lot. On sait qu'il y a quand même 11 millions d'aidants en France. Et pour moi, c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, j'accepte de porter un petit peu ma voix, parce que je me dis, j'étais seul pendant des années et ça a fait beaucoup de mal.
Vous allez y contribuer d'ailleurs, on va en parler dans une seconde. Alors là, à ce moment-là, vous rentrez dans une espèce de marathon. Vous m'avez dit, je n'ai pas pris de vacances pendant 14 ans.
Oui, en fait, comme beaucoup d'aidants ici, enfin, j'ai pas une cape de super-héros. Hein, et après, je pense qu'il y a différents aidants.
Ah, moi, je pense que les aidants, ils ont des capes de super-héros.
Oui, hein. Après, moi, je pense juste qu'il y a aussi différentes maladies et différents aidants. Alors, moi, j'ai été beaucoup dans un processus de sacrifice. Je pense qu'on peut être aussi un très, très bon aidant sans être sacrificiel. Mais oui, je n'ai pas pris de vacances parce que je rentrais tous les week-ends en Normandie. Avec mon frère et mon père, on se répartissait les rôles. Mon frère gérait toute la logistique de la maison, l'administratif, les impôts et le ménage, et remplir le frigo. Mon père était très, 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 c'est un amour
fusionnel avec votre maman. Ouais.
Et moi, je gérais toute la partie médicale. Je chapeautais tout ce que je pouvais chapeauter, aussi bien sur les dossiers, sur les certificats, parfois sur les petites infections à prendre en charge. Je le faisais toujours sous contrôle du médecin parce que je voulais garder quand même la distance et pas faire d'erreur. Mais oui, être aidant, c'est être aidant 24 sur 24 et c'est extrêmement compliqué de prendre du temps. Et je pense que c'était une erreur. Je pense qu'il faut savoir prendre du temps pour soi.
Vous avez aujourd'hui, en tant que médecin généraliste, des contacts avec des familles qui vivent ce que vous avez vécu ou des choses similaires, on va dire. Est-ce que c'est quelque chose de fréquent, cette tentation d'être présent tout le temps, de penser qu'on est le seul à pouvoir bien accompagner son proche malade ? Est-ce que c'est ce que vous voyez, vous, dans vos consultations ?
C'est un constat. Effectivement, les patients vont dire « c'est normal, docteur, que je sois là, que je m'occupe de ma maman, que je m'occupe de mon mari, que je m'occupe de ma femme ». Voilà, ça, c'est le discours initial. Il y a souvent la promesse. Il y a toujours cette notion de promesse que jamais il ou elle sera institutionnalisé.
Vous l'avez faite, vous, cette promesse ? Maman, jamais je ne te mettrai dans une institution ?
Oui, la promesse a été faite. Et elle a été tenue jusqu'au dernier souffle. Après, encore une fois, je le dis, hein, tout le monde ne peut pas faire... on fait avec les moyens qu'on a. Mon frère, mon père et moi avons réussi à tenir cette promesse. Mais
il a fallu que votre père parte en retraite un petit peu.
Oui, mon père est parti.
Etc. Ça a demandé quand même une grosse organisation.
Oui, et au-delà de l'organisation que ça a demandé, ça nous a tous coûté physiquement, et mon père notamment. J'ai eu une année extrêmement compliquée l'année dernière. Hein. J'ai perdu ma mère au mois d'avril à 64 ans, puis mon père à l'âge de 67 ans au mois de juin. Donc effectivement, être aidant, c'est extrêmement douloureux et je pense qu'il faut beaucoup prendre soin de soi quand on est aidant, et ça, on n'y pense pas toujours, parce qu'on a toujours la tête dans le guidon et on dit on fera ça plus tard, mais c'est une réalité.
Vous dites que vous êtes devenu l'aidant de vos parents, le parent de vos parents. Vous écrivez d'ailleurs un livre qui est sur le point de sortir. Pourquoi vous avez décidé d'écrire ce livre ?
Parce que je me suis vraiment senti seul toutes ces années. C'est-à-dire que du début jusqu'à la fin, du début des premiers symptômes jusqu'à la fin, jusqu'au dernier jour, il y a eu beaucoup de solitude, autant dans les démarches de tout ce qu'il fallait mettre en place. Parce que je trouve que c'est un bordel monstre. Il y a une cartographie qui n'est pas faite. Il y a des aides auxquelles on ne connaît même pas qu'on a accès. C'est une difficulté de remplir des dossiers dans tous les sens. Une réévaluation de tous les dossiers, c'est un bordel monstre. Et moi, je trouve ça assez fou de voir qu'aujourd'hui, on sait que là, on est 11 millions, que dans 7 ans, on sera un exercice sur 4 qui sera aidant. Et en réalité, je pense que la médecine à l'hôpital, c'est déjà bien la catastrophe. La médecine de ville, c'est aussi compliqué. Et si dans 7 ans rien n'est fait sur les dents, ça va être un tsunami qui va débarquer. Et en fait, je me suis dit, il fallait. Alors, modestement, hein, je me suis dit que j'étais généraliste, que j'avais une casquette des dents et puis j'ai une petite exposition médiatique. Et j'ai eu envie de délivrer mon témoignage sur ce que j'ai moi pu mettre en place pour m'aider un peu. Et puis à la fin, je fais également des propositions de ce qu'on pourrait améliorer pour le futur.
Alors, n'en attendez pas un manuel de survie. C'est pas du tout ça.
Non, c'est pas du tout. On n'est pas sur un manuel de survie. Et encore une fois, je le dis, je veux déculpabiliser les gens. Il y a plusieurs malades et il y a plusieurs aidants. Chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Et moi, je trouve ça déjà super. Et plusieurs fois, moi, on me disait, je vous félicite. Enfin, j'avais autour de moi des amis, de la famille qui nous félicitaient, mon frère et moi, pour tout ce qu'on faisait. Et c'était quelque chose que je n'entendais pas. Parce que pour moi, c'était encore une fois, c'était normal. Mais aujourd'hui, je tiens à dire vraiment à tous les aidants que ce que vous faites, vous le disiez, en fait, on est un peu tous des super-héros. Vous faites un travail extraordinaire. Vous remplacez, vous suppléez beaucoup un système de santé qui est en train de s'effondrer. Hein. C'est vous qui faites l'auxiliaire de vie à la maison. C'est vous qui faites le kiné. C'est vous qui faites l'assistante sociale. Et rien que pour ça, moi, je vous le dis bravo, parce que moi, j'ai eu du mal à l'entendre. Et aujourd'hui, voilà, j'ai eu envie de retracer ces quelques mots dans ce livre. Voilà.
Tout à l'heure, un de nos intervenants a remis en cause la notion de deuil blanc. C'est toujours ma maman, mais c'est plus tout à fait ma maman. C'est aussi quelque chose que vous avez vécu, ça ?
Oui, j'ai entendu cette définition sur le deuil blanc. Oui, je l'ai vécu. Et encore une fois, je pense que je rejoins ce qu'il disait. Hein, en effet, de temps en temps, il y a des petits moments, il y a des petits moments de lumière dans l'œil qui se rallument et on se dit, ah, elle est encore présente. Et ça nous fait reconnecter. Et moi, c'est toutes ces choses que je faisais tous les jours, même si parfois c'était compliqué. Si dans la journée, j'avais juste un seul sourire qui permettait de rétablir la connexion, je me disais, ah, ça vaut le coup. Maintenant, sur la notion de deuil blanc, oui, c'est toute cette ambivalence où en fait vous avez la personne physique qui est présente à côté de vous mais qui petit à petit n'est plus là ou du moins en moins là et en fait qui s'éteint petit à petit, en fait vous ne reconnaissez plus et elle emportait avec elle tous les souvenirs d'enfance parce qu'en réalité quand on perd quelqu'un c'est bah, en fait la seule personne qui connaissait comment moi j'étais quand j'étais petit, bah, c'est ma maman et en réalité oui quand on perd quelqu'un de proche, son papa ou sa maman, bah, c'est une partie de soi aussi qui s'en va louer.
Alors, il y a ces moments magiques, ce sourire, cette connivence, cette complicité, un éclat de rire, une situation amusante. J'imagine que vous en avez une petite collection en mémoire. Puis il y a aussi tous ces moments, peut-être qu'on vous en parle en consultation, où la vie semble juste impossible à continuer, où on en a assez, où on pourrait presque devenir violent parce qu'on ne sait plus comment gérer le quotidien. Parfois, c'est aussi le patient qui a des pulsions de violence. Est-ce que ça, ce sont des choses qui commencent à se dire dans les cabinets médicaux ?
Oui, ça se dit. Et moi, le premier, j'ai eu des moments de j'ai eu envie que ça s'arrête. C'est qu'à un moment donné, en fait, la privation de sommeil, je trouve que c'est la pire des tortures. Quand plusieurs jours d'affilée, plusieurs nuits d'affilée, vous ne dormez plus parce qu'il y a l'agitation, l'énervement, vous perdez un peu votre calme. Et il y a un peu cet effet des enfants secoués. Vous savez que beaucoup de parents peuvent ressentir quand les enfants n'arrivent pas à calmer les enfants, mais qui, heureusement, ne passe pas à l'acte, parfois vous pouvez ressentir cette sensation aussi de voir que ça s'arrête. Et puis en plus, vous pouvez culpabiliser d'avoir eu ces pensées un petit peu pas très sympas.
Là, ça devient compliqué.
Ça devient compliqué à gérer. Donc en réalité, au cabinet, vous avez raison, il m'arrive d'avoir des patients qui viennent et qui expriment ce genre de sentiments. C'est pour ça que je pense que lorsqu'on est aidant, l'une des premières choses à faire, c'est d'avoir un accompagnement avec un psychologue. Pour moi, il est normal et naturel d'aller exprimer ce qu'on ressent et d'avoir une personne neutre qui arrive à comprendre et entendre ce qu'on lui dit. Et c'est l'une des premières choses que j'ai faites, d'avoir un suivi psy.
Et c'est ce que vous conseillez à vos patients ?
Une évidence, j'ai envie de vous dire.
Et trouver de l'aide aussi pour au quotidien être accompagné, même si on sait que c'est difficile.
Je pense que c'est capital en fait d'avoir une aide psy. Parce qu'encore une fois, je vous le disais, hein, quand on est aidant, on a toutes les capes de la terre et vous gérez tout. Vous avez toutes les fonctions pour aider au mieux le proche malade. Et en réalité, quand on est aidant, souvent on met sa santé de côté et c'est une grave erreur. Je pense réellement qu'il faut être accompagné, verbalisé. Et c'est la plus belle décision que j'ai prise ces 10 dernières années, c'est d'avoir vu une psy.
Et puis un jour, vous rencontrez Mary Poppins.
Mary Poppins, oui. Les auxiliaires de vie, moi, je trouve ça, bien sûr, formidable. Et ça aussi, c'est une nécessité. Et c'est une étape, hein, de faire rentrer quelqu'un dans sa maison. Je suis sûr que vous êtes tous conscients de ça. Pendant des années, mon père ne voulait absolument pas entendre parler d'une auxiliaire de vie. Et puis, il a commencé à voir que ça jouait un peu sur nos nerfs, à mon frère et moi, parce que, on était très sollicités. Donc, on a eu une première auxiliaire de vie qui est venue, puis une deuxième, puis une troisième. Puis on s'est dit qu'en fait, ça n'irait jamais. Et mon père nous disait, en fait, il n'y a que nous qui pouvons faire les choses et les faire bien. Et puis un jour est arrivée Sandrine qui a été pour moi notre Mary Poppins. Elle était à l'origine l'auxiliaire de vie d'une seule vie, celle de ma maman. Et en réalité, elle a été pour nous quatre, mon père, mon frère et moi. Elle était capable de nous redonner de l'oxygène dans cette maison. Et en fait, on s'est laissé porter. Et je pense que c'est toute la difficulté, c'est de prendre le temps de laisser rentrer à l'intérieur d'une maison une auxiliaire de vie, de trouver sur la bonne personne. Et là aussi, je pense qu'il faut revaloriser tout le système de soins et ces personnes qui viennent à la maison parce que malheureusement, elles auront une reconnaissance minime et lamentable. Et aujourd'hui, il faut pouvoir leur redonner le moyen et puis des forces et puis une reconnaissance pour de nouveau que je souhaite à tous de trouver Mary Poppins.
Un vrai salaire, une vraie reconnaissance, des vrais horaires de travail parce qu'on sait que c'est très très difficile et que la vocation, elle demande aussi à être soutenue. C'est aussi quelque chose que vous racontez ça dans votre livre ?
Oui, il y a eu un rapport dans le CESE qui montrait que c'était l'un des cinq emplois où il y avait le plus de demandes de travail, enfin, il manquait d'employés. Oui, pour moi, les auxiliaires de vie font un travail formidable et aujourd'hui, elles ne sont malheureusement pas assez reconnues. Et donc, je tenais à apporter aussi mon témoignage et mon soutien auprès de ces professionnels de santé qui sont, ces professionnels qui sont vraiment essentiels pour le maintien à domicile dans des bonnes conditions.
Aider les aidants. Je suis devenu le parent de mes parents. Ça va être publié aux éditions Stock le 20 septembre 2023. C'est pas un hasard cette date.
La veille du 21 septembre, journée mondiale d'Alzheimer, oui.
Bien, c'est vraiment un livre qu'on a hâte de lire. Vraiment un grand merci pour votre témoignage et pour avoir pris le temps d'écrire ce livre et d'accompagner les aidants parce qu'on en a besoin nous aussi.
Merci à vous.
Merci beaucoup.